dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Le vendredi 22 avril dernier avait lieu une cartopartie, soit une promenade cartographique groupée dans les rues de Paris. Celle-ci visant à repérer, observer et photographier des caméras de surveillance dans l'espace public pour pouvoir par la suite les reporter sur une carte collaborative via le site Surveillance Under Surveillance. Cette déambulation guidée, prompte aux discussions et interrogations, était animée par des personnes de la Quadrature du Net et du collectif Technopolis. Le rendez-vous était donné à proximité du métro Stalingrad, à la frontière entre le 10e et le 19e arrondissement, pour arriver à la librairie du Pied-à-Terre, située, elle, dans le quartier de Château-Rouge, dans le 18e arrondissement. C'est dans cette dernière qu'a pu se tenir de plus amples débats sur l'appareillage technopolicier et son monde, notamment vis-à-vis de la ville de Marseille.
On va commencer la balade des caméras de surveillance du quartier. Elles sont en rouge ici, les caméras qui ont déjà été cartographiées. C'est des caméras publiques. Les bleus, c'est les caméras privées. Donc le trajet, ça va être de longer le jardin des Halles, si vous le voyez là en milieu à peu près de la carte, où il y a eu en fait un camp de migrants qui a été démantelé il y a 6 mois, 9 mois. Donc pendant des années, la mairie n'a rien fait pour ces migrants-là et pour ces gens qui étaient dépendants en crack, à part emmener la police, envoyer la police pour démanteler les camps et les déplacer. Donc le déplacement des problèmes, c'est un truc classique qui est fait avec les migrants, mais c'est aussi un effet de bord classique qui est constaté par les chercheurs. Lors de la vidéosurveillance. Donc quand on installe la vidéosurveillance dans un quartier, il y a des études qui montrent qu'en fait ça ne fait que déplacer les crimes vers les quartiers périphériques. Dans les cas où il y a un peu d'incidence sur les crimes dans le quartier, parce que la plupart des études montrent que les chiffres sur le taux d'élucidation des incidents grâce aux caméras sont très faibles. Donc ces chiffres-là viennent d'études qui ne viennent pas du tout de nous. Les dernières, c'est une étude de la gendarmerie avec des chercheurs. Une autre, c'était la Cour des comptes. Et une autre, c'était encore de la police, je crois, donc ça vient de l'intérieur.
Les arguments que donnent les gens qui installent les caméras, eux, ils disent que ce sera utile si la criminalité baisse les endroits où on met les caméras, un, et deux, si quand un crime se produit, on arrive à arrêter les personnes. Alors on peut complètement questionner ces critères, hein. Moi je trouve que ce n'est pas des bons critères, mais bon, c'est les critères qu'ils avancent, et il se trouve qu'ils ne les remplissent même pas. En vrai, la criminalité baisse pas parce que les gens, ils ne savent pas qu'il y a des caméras, juste tout simplement, genre nous-mêmes, on ne savait pas. Au mieux, les gens qui le savent, ils vont juste faire la criminalité plus loin. Par exemple, la vente de drogue, quand il y a une caméra, les gens ils vont pas rester sous la caméra, ils sont pas cons, ils vont juste dans un endroit où il n'y a pas de caméra. Pour arrêter les criminels après coup, mais ça, du coup, tu regardes les enquêtes et tu vas demander aux policiers, est-ce que vous avez utilisé des vidéos, des images de vidéosurveillance? Est-ce que c'était utile, etc. Et en fait, les policiers disent que non, en fait, dans la très très grande majorité des cas. Dans les études un peu quantitatives qui ont été faites, c'est genre, ça se compte en 0,5% le nombre d'enquêtes où la caméra ou les images de caméra ont été utilisées.
Est-ce que tu veux parler un peu de l'histoire du quartier? Parce que moi, je le connais moins bien.
Je voulais plus commencer par une anecdote, parce qu'en fait, j'habite plus le quartier depuis quelques années, mais j'ai vécu au début de l'avenue de Flandre pendant la plupart des années 2010. Et en fait, oui, l'idée, ce que disait Eda, c'est de repérer les caméras de surveillance, aussi de pouvoir croiser avec des politiques de la ville, des politiques de l'État, et de se demander pourquoi il y a telle caméra à tel endroit, et le croiser avec d'autres événements. Et en tout cas, je me souviens que quand il y a eu l'arrivée d'énormément de migrants venus de Syrie à cause de la guerre là-bas, je pense que ça devait être été 2015, été 2016. Et ça a été le moment en fait, où on a vu tout le dessous de la ligne 2 du métro aérien complètement grillagé, qui est de plus en plus ces endroits d'espace public grillagés. Et en fait, ça a commencé, c'est ce qui s'est passé aussi au début de l'avenue de Flandre. Au tout début, en fait, il y a eu beaucoup de personnes qui vivaient là, en fait, notamment pendant une canicule et qui dormaient sur le terre-plein. Et vraiment, on voyait, il y avait, 200, des centaines de personnes qui dormaient juste sous un drap, là, parce qu'il faisait très chaud, pendant l'été. Et en fait, après que tout ait été grillagé sur la ligne 2, ils se sont mis aussi à grillager tout le terre-plein de l'avenue de Flandre. Et ça allait quand même assez loin. Hein. Je pense que ça allait au moins jusque Riquet, peut-être même au-dessus. Et en fait, c'est à ce moment-là où ils ont proposé, ça devenait en fait des espaces de jeu de pré-annonce de Paris JO 2024. Et c'était présenté comme un espace ouvert pour les Parisiens, donc pour la jeunesse et pour le sport. Et donc, il y avait 2-3 faux arbustes, arbustes avec des feuilles en plastique, une table de ping-pong. Et moi, je me souviens, parce que j'habitais vraiment au-dessus, et je voyais juste le vigile seul avec une vieille musique hyper fort et son chien méchant. Et il était tout seul toute la journée avec la table de ping-pong et il ne se passait rien. Et donc, il y a peut-être un peu ce parallèle aussi entre eux. Ils ont évacué des gens qui dormaient là pour encore grillager. Et là, il y avait eu l'excuse de, comme c'était un endroit plus passant, de peut-être pas grillager comme en dessous du métro, mais on proposait des activités en lien avec des sortes d'espèces presque publicitaires de JO 2024. Quoi.
JO 2024, c'est important parce que c'est à toutes les JO, partout dans le monde, c'est un peu le prétexte pour mettre de nouveaux dispositifs sécuritaires en place dans toutes les villes et même dans tous les pays où se passent les JO. Et ça commence là, enfin ça a déjà commencé depuis longtemps en France avec les JO de Paris 2024. On a beaucoup d'argent, je connais pas le chiffre mais c'est peut-être Noémie le connaît. On a publié déjà dessus, il y a beaucoup d'argent qui a été donné en fait, c'est de l'argent public qui a été investi pour la sécurité des JO dans des espèces de marchés privés-publics. Beaucoup de boîtes privées de la surveillance et de la sécurité ont commencé à réfléchir et à imaginer les dispositifs de sécurisation des JO 2024. La CNIL a déjà dit que, ça allait, que pour des événements tellement exceptionnels, la reconnaissance faciale, ce serait pas superflu, ce serait pas un problème si dans un cadre vraiment de JO et très... encadré, on pouvait l'autoriser. Donc on prépare un peu le terrain depuis longtemps. La CNIL avait dit ça, la présidente de la CNIL avait dit ça l'année dernière. Et les dispositifs et les marchés de sécurisation pour les Jeux commencent déjà. Et on sait de par le passé que dans toutes les villes où il y a eu des JO, il y a eu des dispositifs nouveaux mis en place qui n'ont pas été enlevés après, qui ont été utilisés, réutilisés après. Et ça, c'est un peu l'escalade à cette occasion-là. En plus d'être un événement qui engage beaucoup de frais du point de vue écologique, du point de vue de l'argent public, etc.
C'est qu'en fait, tout l'argent qui allait avant à la prévention, c'est-à-dire tout ce qui est prévention de la délinquance ou les salles d'animation, etc. dans les quartiers, ont été filés à l'installation de caméras. C'est-à-dire que cet argent, il vient de quelque part et il vient de la prévention avant de la délinquance, qu'ils appelaient comme ça, mais qui était plutôt des espaces pour créer des activités, suivi des jeunes individuellement ou collectivement pour prévenir la délinquance. Bon, mais maintenant, on n'utilise pas les mots avec le même sens.
Regardez, scrutez le site de la ville de Paris.
Alors, du coup, c'est...
3 ventes d'installation, 20 à 25 000 euros.
Ouais, une caméra, 25 000 euros.
Donc, non, c'est 20 à 25 000. 20 000 ou 25 000 pour une installation. Frais de location de 290 à 870 euros par mois. pour toute sa durée de vie. Et coût moyen de fonctionnement, 4600 euros par an. Location, entretien et maintenance. Donc au-dessus de l'installation, on ajoute ça.
Et
bien c'est nos impôts et nous. Bien sûr.
L'argent, il n'y en a pas.
En tout cas, elle est liée à la boîte pour le maintien et l'entretien.
Ah ouais, faudrait se renseigner.
Donc, si elle tombe en panne, c'est la boîte qui doit venir la maintenir et la mairie qui paye tous les mois. En tout cas à Marseille, mais ça doit être un fonctionnement assez classique. Coût d'installation, puis ensuite coût d'entretien mensuel, annuel, et voilà.
C'est quoi l'interaction entre les caméras privées et les caméras publiques ?
Ah oui, c'est intéressant ça. Je sais que les caméras dans les bâtiments publics, par exemple lycée, école, musée, etc., elles sont gérées par une personne qui est responsable de la vidéosurveillance dans cet endroit-là, qui est censée donc gérer l'accès aux images, etc. Et qu'en cas d'infraction, ils ont des contrats avec la police pour passer les images, etc. Donc ça va dans les deux sens. Et la police peut demander l'accès aux images si jamais elle a des doutes sur quelque chose. Et l'école peut dire, il y a eu telle chose, je vous passe les images pour que vous me disiez tel ou tel truc, qu'est-ce qui se passe ?
Ce qui est assez marrant, c'est que là, elles se fondent complètement dans le décor, quoi. Donc, elles n'ont plus vocation à être vues. Il faut lever les yeux, les couleurs sont les mêmes.
C'est complètement intégré dans le mobilier urbain, quoi.
Contrairement à cette caméra là-bas, où ça, c'était vraiment le symbole de genre, attention, on surveille.
Ouais. Ce qui est intéressant aussi dans ce genre de balade, c'est que ça permet de voir la ville aussi d'une autre manière. Parce que quand on se promène, on n'a pas forcément le nez en l'air à regarder la surveillance. Bah oui, il y en a beaucoup quand même dans les rues des caméras.
Après une heure de promenade cartographique dans les rues de Paris, le nez effectivement en l'air à chercher du regard des boîtiers devant renfermer une et parfois même plusieurs caméras, nous arrivâmes au point de chute préalablement fixé, la librairie du pied-à-terre. Si le nez ne fut pas dans les bouquins, ce fut bien de livres dont il fut question, puisqu'il était présenté un manuel de la collection 369 intitulé « Technopolis » défaire le rêve sécuritaire de la Safe City, écrit par Claire Richard et illustré par Louise Drulle. L'occasion alors de présenter le collectif Technopolis, dont les membres marseillais ont contribué à la documentation de l'ouvrage.
Donc la campagne technopolis.fr, c'est une campagne, enfin Technopolis, et le site internet technopolis.fr, donc c'est une campagne qui vise à analyser, documenter et lutter, afin de mieux lutter contre les dispositifs de vidéosurveillance. Elle a été lancée fin 2018, je crois, début 2019, par la Quadrature du Net. Et depuis, on essaye de faire en sorte qu'elle soit la plus décentralisée possible, avec des collectifs locaux qui s'emparent du sujet et qui vont un peu analyser et documenter et ensuite lutter contre les dispositifs autour de chez eux, qu'ils connaissent mieux que quiconque, puisque ça les concerne directement. C'est comme ça qu'on a par exemple un collectif assez actif à Marseille. Il y en a d'autres dans d'autres villes, à Montpellier, et il y en a d'autres aussi qui naissent pour contrer des vidéosurveillances, comme à Saint-Étienne, quand il y a eu l'audiosurveillance des microphones dans la ville. Donc c'est grâce à ce collectif-là qui a alerté avant la mise en place même de ces microphones, que la CNIL a aussi a tout de suite dit c'est pas possible, on arrête, il faut arrêter, et que la ville du coup a arrêté, a pas mis en place le dispositif. Il y en a un forum où vous pouvez vous retrouver, vous pouvez voir si autour de vous il y a des gens intéressés dans votre ville, dans votre quartier. On voulait faire cette carte au parti à Paris parce que on n'a pas de collectif vraiment qui existe à Paris, et on voulait aussi vous inviter à en former un, parce qu'on a les JO 2024 qui arrivent et qui vont être l'occasion, le prétexte pour mettre en place des dispositifs qui font assez peur au niveau sécuritaire, qui vont encore plus loin.
que ce qu'on a déjà, en sachant qu'on a déjà pas mal d'expérimentations, notamment une expérimentation de vidéosurveillance algorithmique qui a été menée par la SNCF ou la RATP, je crois, dans les métros parisiens. C'est souvent très opaque. Nous, on apprend l'existence soit par hasard, parce qu'il y a eu un article, parce qu'un collectif local nous en parle, ou parce qu'on veille un petit peu et on voit qu'il y a des choses louches qui se passent, ou on creuse un petit peu en faisant des demandes d'accès aux documents administratifs. Mais la plupart du temps, c'est un peu par hasard qu'on tombe dessus, même si on les cherche. Et il y en a plein, sûrement, qu'on ne connaît pas. Donc c'est un travail collectif important pour les connaître et pour les détecter. Et ça, on le fait sur le forum technopolis.fr. Donc on a le site, on a le forum. On fait des demandes CADA, beaucoup.
Qu'est-ce que c'est peut-être une demande CADA ? Une
demande CADA, c'est une demande d'accès aux documents administratifs. Donc il y a une loi en France, c'est le code des relations entre le public et l'administration, qui dit qu'en gros, on a le droit de demander accès à tout document administratif qui concerne une administration publique. Et dans les faits, ça paraît très beau et très facile comme ça, mais dans les faits, en fait, c'est difficile. On a très peu de réponses. Ce n'est pas un processus simple et vraiment citoyen. Donc vraiment, il faut longtemps pour comprendre les rouages, les délais, les façons de se plaindre si jamais on n'a pas de réponse. Et il y a même un dispositif qui permet après d'aller porter recours contre l'ETA si jamais l'administration, elle ne répond toujours pas, ce qu'elle fait souvent. Or, les simples citoyens, aller au TA, déposer un recours comme ça juridique, c'est encore plus difficile. Donc c'est censé être quelque chose qui facilite les relations entre le public et l'administration, mais en vrai, c'est compliqué. Et donc, nous-mêmes, on a appris à le faire et on apprend encore à le faire. Donc, on invite les gens un petit peu à s'emparer de cet outil-là, mais on sait que c'est difficile et on peut vous accompagner. C'est pour ça qu'on a le forum, etc. Donc, vidéosurveillance algorithmique, ça veut dire qu'il y a des algorithmes qui sont mis derrière les caméras de surveillance et qui détectent automatiquement des comportements dits suspects. Donc, il n'y a plus besoin d'humains derrière les caméras au CSU pour regarder ce qui se passe. Mais là, maintenant, les alarmes vont détecter automatiquement les comportements dits suspects. Donc, par exemple, on a des logiciels qui disent que... un comportement typique suspect est quelqu'un qui reste dans la rue plus d'une demi-heure à un lieu fixe. Donc, c'est le maraudage, ils appellent ça. Dépose d'objets sauvages, tag dans les rues, rassemblement de plus de X personnes dans un lieu public qui font du bruit ou qui boivent ou je sais pas. Ils peuvent être des comportements suspects. Donc tout ça, c'est un peu laissé à la merci et aux décisions de ces boîtes privées et des mairies qui mettent en place ce dispositif-là.
Tu as parlé tout à l'heure, là, par rapport à Saint-Etienne, d'audio-surveillance. Ça fonctionne comment? C'est quoi le principe? Et qu'est-ce que c'est censé écouter ou qu'est-ce qu'on espère entendre?
Alors, Arthur, peut-être tu te rappelles mieux de Saint-Etienne, mais je crois que l'idée, c'était de mettre des micros partout dans Saint-Etienne et d'écouter le bruit de la rue.
Ça a été effectivement très médiatisé à l'époque. Ça empêche pas du tout ce phénomène de se développer. Et à Orléans, là, il y a effectivement cette société qui s'appelle Sens Civique, qui est assez un super nom. Qui font des capteurs pour effectivement surveiller l'espace auditif et les coupler aux caméras de surveillance. Ça veut dire que par exemple, comme il y a plein de caméras et qu'on sait, en fait, on peut pas toutes les regarder en même temps, s'il y a un événement sonore qui se produit, en fait, elles vont se diriger vers l'endroit d'où vient le bruit et ça peut être par exemple, enfin, c'est toujours par rapport à des seuils, quoi. Donc, en fait, c'est par exemple d'un coup l'intensité sonore qui monte rapidement à un endroit ou des cris ou des choses comme ça. C'est pas comme Audio Analytics. On entraîne, en fait, cette société française, en fait, elle a des ingénieurs. Effectivement, ils cassent des vitres et pour faire une grande banque de données de tous les sons possibles pour voir qu'est-ce que ça pourrait être, peut-être un bris de glace qui serait criminel et comment on pourrait distinguer un bris de glace criminel d'un ballon qui casse une vitre. Donc ça, c'est intéressant. Mais à Orléans, c'est pas avec ce type de base de données de sons, c'est vraiment des histoires, c'est de l'apprentissage non supervisé. Et du coup, c'est vraiment par rapport à des seuils, en fait. Ça veut dire qu'en fait, ils ont tout un tas de capteurs qui sont hyper spécialisés. Par exemple, un capteur spécial pour le métro. Donc en fait, là, c'est plutôt quand ça dépasse des seuils, en fait, ça déclenche des phénomènes. Mais par contre, eux, leur rêve, c'est vraiment la police prédictive. C'est-à-dire, à terme, en fait, mettre plein de capteurs dans la ville et faire des modèles acoustiques, en fait, pour pouvoir intervenir en amont avant que le crime n'ait lieu, quoi. Donc ça, c'est eux qui le disent texto, en fait, du coup.
Et dans la vidéo de publicité de leur système, donc c'est une vidéo qui se passe dans une banque, à côté du guichet d'accueil d'une banque, et il y a une personne qui vient, donc un client de la banque, qui parle avec la guichetière et qui lui dit « Mais mon compte est bloqué, je n'arrive plus à retirer, qu'est-ce qui se passe ?» et qui commence à crier d'un coup. Et hop, là, on a la caméra qui se dirige vers la personne parce qu'elle a détecté un son qui est anormalement élevé. Et en fait, c'est très emblématique, cette vidéo, parce que ça montre quoi ? Ça montre quand on voudrait détecter les problèmes causés par des pauvres qui ont des problèmes en guichet d'une banque où leur compte a été bloqué. Donc c'est très parlant, et en fait, ils ne s'en rendent même pas compte qu'ils sont en train de mettre en scène la détection d'une incivilité venant d'une personne en détresse, en fait, par rapport à son compte en banque qui est bloqué. Ça, c'est leur façon de faire la publicité de ce que c'est bien, quoi, de ce que c'est cool comme système.
Pour rester sur la question audio, dans un truc un peu moins grave peut-être, j'aimerais bien s'il y a des gens qui ont des informations sur les méduses qu'il y a dans le sud de Paris.
C'est pas l'initiative de personnes habitant le quartier. Mmh. En fait, c'est une association qui s'appelle Bruit Parif, qui est une association de gens qui sont parfois proches de la mairie de Paris, qui ont fondé cette entité associative avec l'objectif de développer une cartographie sonore de Paris intramuros. Mmh. Donc c'est pas aussi décentralisé que ça. Voilà. L'association Bruit Parif installe des micros. Il sera tenté d'installer des micros là où on lui en demande d'en installer. Donc oui, elle est en discussion avec des habitants des comités de quartier. Et pour l'instant, c'est pas tant dans le sud que dans le nord-est. Ça nous surprendra tous que les méduses sont installées.
Ça dit peut-être quelque chose de la licitité des actions aussi contre ces dispositifs-là. Finalement, ils sont privés ou ils sont semi-publics dans...
Mais c'est du parapublic.
Déjà en contact pour les JO 2024 avec différents collectifs comme Saccage 2024. On a collaboré ensemble dans leur lutte tournée plutôt vers l'écologie contre les JO, mais on est dans le même panier en fait. Ils comprennent très bien les enjeux sécuritaires aussi. Ils ont obtenu ils ont un peu gagné dans l'affaire des jardins d'Aubervilliers, mais a posteriori, une fois qu'une partie des jardins a été détruite, mais quand même, ils ont. Finalement, on leur a donné raison. Donc, on va voir ce qui se passe maintenant pour la partie des jardins qui a été détruite. Donc, vraiment, on vous invite à former un collectif de façon très informelle, sans se poser trop de questions, et à venir voir Saccage ou les quadrapéros dans les locaux de la Quadrature du Net pour s'organiser, rester en contact et essayer d'avoir des actions diverses et variées. Parce qu'on se rend compte que les actions juridiques, ça suffit pas. Et il faut des actions diverses et variées. Vos idées sont les bienvenues. Et voilà. Bien sûr, on n'a pas solution à tout. On est très demandeurs nous-mêmes de vos idées.
Thank you.
à la VSA, vidéosurveillance algorithmique, et ça rejoint un peu ce qu'on disait là sur science civique, donc c'est juste une histoire de seuil ou pas. Souvent, en fait, en couplant plusieurs dispositifs, donc là, science civique couple les caméras avec la détection peut-être de seuil, ben, ça donne quelque chose de plus puissant que juste détection de seuil tout court ou juste caméra tout court. Et en fait, c'est souvent un couplement de plein de choses qui font qu'on arrive à détecter des choses que, bah, aussi puissamment que si on avait juste de l'ARF ou juste un truc. Par exemple, à Marseille, on a ces nouvelles caméras sur la place de la Plaine, qui est une place qui a été reconstruite contre l'avis de la population. Il y a eu une bataille là-dessus. Après, ils ont mis un grand mur pour faire les constructions et tout ça. Donc, il y a un film là-dessus qui s'appelle La bataille de la Plaine, qui est très intéressant si vous avez l'occasion de le voir. Et ensuite, donc, ils ont construit, ça a été livré, la nouvelle place. Et ils ont mis sur cette place une trentaine de caméras à dernier cri très haut placées avec 5 capteurs chacune sur des très grands plots comme ça qui sont capables de faire du temps réel de façon très précise, de zoomer vers des personnes, de voir des visages, etc. Et lors d'un marché qui se passait sur la place de la Plaine, c'est un marché populaire en soutien aux victimes de violences policières. À la fin du marché, il y a des personnes qui ont mis une banderole sur la place de la Plaine qui disait « Feu aux frontières » et quelqu'un a écrit avec un stylo au-dessus « Et la police au milieu ». Et là, les policiers arrivent, la BAC arrive, donc brigade anticriminelle carrément, et commencent donc à une course-poursuite dans la Plaine et dans le quartier autour vers ces personnes qui ont brandi la banderole. Et en fait, ils entendent qu'ils sont en relation avec leur talkie-walkie, leur radio, avec le CSU, qui leur dit « La personne avec le sweat rouge, tu suis le celui-là, il va où ?»« Et telle rue, je branche la caméra de la rue, il a pris telle rue, ok, suis-le, il porte un truc rouge. » Et donc les deux personnes, assez rigolotes, donc, elles ont entendu ça, elles se sont échangées les blousons. Elles ont eu le courage de jouer avec ça à ce moment-là. Elles sont échangées le blouson et il se trouve que la deuxième personne qui a pris le blouson rouge, du coup, n'était pas celle qui brandissait la bannière, avait rien à voir avec la bannière. Et c'est elle qui a été captée, du coup, finalement, par la BAC. Il a été en garde à vue et il n'a pas arrêté de dire pendant la garde à vue « Je n'ai jamais brandi cette bannière. Vous vous trompez, regardez bien vos images, ce n'est pas moi, etc. » Donc il y a eu un petit jeu comme ça. Suite auquel, ils ont commencé à faire des ateliers où ils proposaient, avec de la machine à coudre, de faire des revers d'une autre couleur des blousons pour qu'on puisse changer et le mettre de l'autre côté en cas de course-poursuite avec la BAC ou juste dans un événement public. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'en fait, ces dernières caméras, même si elles ne font pas de l'ARF, elles sont capables de zoomer très précisément. Couplé à un officier de la BAC qui court très vite, qui est très vénère, elles peuvent faire une course-poursuite dans le quartier sur la base d'une couleur de blouson. C'est tout un tas de dispositifs mis ensemble qui font que voilà, la vidéosurveillance devient puissante. Et on imagine bien que si on met en plus des algorithmes divers et variés qui maintenant prétendent reconnaître la démarche des gens, donc apparemment on aurait tous une démarche différente, qui même juste en disant c'est une femme blonde d'à peu près 1m50 qui porte un blouson blanc, qui peuvent faire en fait un suivi du trajet dans la ville de la personne. Donc pas besoin explicitement d'avoir une reconnaissance faciale pour faire ce genre de choses. Mais en plus avec les algorithmes et les petites choses qu'on met dessus, on peut avoir en fait des choses assez puissantes et assez qui entravent assez bien la liberté de vivre et de se déplacer, de se mouvoir dans la ville. Donc là, même si le micro de sens civique, il s'avère que finalement ça va pour la CNIL, couplé à des caméras et couplé à autre chose, ça peut devenir quelque chose d'encore un peu plus puissant pour détecter un truc suspect. Tu disais, si vous arrivez à prouver qu'ils veulent une gentrification plus qu'autre chose, en fait, souvent, il suffit juste de lire leur projet. Pour vraiment, c'est écrit des fois noir sur blanc. Et par exemple, à Marseille, le projet qui a un peu donné l'alerte et qui a lancé Technopolis, ça s'appelait Observatoire, ça s'appelle plus comme ça, mais ça existe toujours, Observatoire Big Data de la tranquillité publique. C'est le grand projet qui vise à croiser un tas de données de la ville. Donc, donner de la vidéosurveillance, donner des mains courantes donner de l'électricité, des capteurs, d'autres capteurs dans la rue, de la Smart City, donner des hôpitaux, donner en accès libre, Facebook, réseaux sociaux, etc. Donner que les gens mettent eux-mêmes sur l'application Marseille 2.0 de la ville. Et en fait, il marque noir sur blanc. Le but, c'est à partir des données passées, scruter le présent pour prévoir le futur. C'est marqué noir sur blanc. Donc en fait, ce qu'ils veulent, c'est croiser plein de données comme ça pour prévoir un peu l'humeur des gens, qu'est-ce qui va se passer, s'il y a un rassemblement d'un coup à tel endroit, si ça va faire exploser là ou ici. Enfin, c'est vraiment, en fait, c'est de la gestion quotidienne de la ville parce qu'ils craignent les rassemblements, ils craignent que les gens... se retrouvent ensemble et qu'ils commencent à faire des plans pour faire des trucs et ça leur fait peur. Et quand ils ont reconstruit, je te reprends après, quand ils ont reconstruit la plaine dans le projet que la société privée a présenté sur une belle affiche recto verso en 4 pages, on avait une belle vue de cette nouvelle place avec plein de commerces et plein de terrasses, c'est-à-dire que si on est sur l'espace public, c'est pour consommer. C'est pas pour être comme ça dans la rue sur les bancs publics. D'ailleurs, il y a très peu de bancs. C'est des bancs individuels, surtout pas des bancs où des SDF oseraient se coucher la nuit. Et ils aiment bien les flux, en fait. Les flux de gens. La ville se traverse, mais on reste pas immobile. Et ils le disent. Tu le vois avec des gens pris avec des photos qui laissent des traces comme ça, où les gens bougent. C'est très rigolo. Et après, ils disent il y aura plus de tags. Parce que grâce aux caméras, on va détecter les taggeurs sur la place. On va nettoyer les tags très vite. Donc voilà, c'est une vue idyllique de la ville qui est présentée avec des gens qui consomment, qui passent en flux et surtout qui ne dérangent pas, qui ne s'expriment pas, que ce soit par les tags ou en se rassemblant. Vraiment, il suffit de lire leur projet pour voir que c'est très lié à des incivilités courantes de la vie courante et de gestion quotidienne de ville et de vie, quoi.
C'est vrai qu'il y a le côté gestionnaire et commercial. Enfin, il y a aussi traquer que nos déplacements, qui sont là où nos navigations en ligne produisent des données. Enfin, tu peux enregistrer des choses pour faire des profils commerciaux. Tu peux presque, il y a presque une forme de transposition qui peut finir par arriver. La manière dont tu te déplaces, le temps que tu vas passer devant une vitrine, etc. Mmh. Ça va devenir aussi des données qui vont pouvoir être monétisées par la publicité, par l'exploitation des profils. Ouais, exactement. Enfin, devenir du marketing. Ouais. Et du coup, tu as la vision de la ville et aussi de ce qu'on y fait, quoi. Effectivement, de gérer et par contre de continuer à vendre. Quoi. Mmh.
Et avec la Smart City qui veut mettre des capteurs un peu partout. On voit beaucoup de projets où ils veulent mettre des capteurs pour voir le flux, combien de personnes passent. Donc ils disent que c'est pour la ville verte, donc pour voir combien de vélos passent à cet endroit-là. Mais ce sont des données qui, comme elles sont produites à la base, en collaboration avec des sociétés privées qui ont le droit d'exploiter ces données-là. Donc ils ont déjà le droit en fait de les exploiter commercialement, et c'est ce qui va les intéresser, on le sait. Et souvent ces données-là, il y a des fois, en fait, elles ne sont même pas publiques. Il y a dans les marchés, par exemple, dans Smart Port, pour le port de Marseille, c'est prévu que les données soient ouvertes entre les membres du consortium. Donc il y a marqué ouverte, et plus loin, entre parenthèses, entre les membres du consortium. Et les membres du consortium, en fait, c'est des sociétés privées, la plupart des gros trucs, hein, NG, Neo, je ne sais pas. Quelques organismes semi-publics, mais voilà, ouvertes entre eux.
De données et du marché de la donnée, quoi. Il y a certainement de pouvoir surveiller la ville et canaliser ou normaliser en tout cas la contestation, mais j'ai l'impression, je sais pas si je vais arriver à bien le dire, mais qu'il y a aussi un entretien de l'insécurité, c'est-à-dire que le discours sécuritaire, c'est un discours qui prône l'insécurité. C'est-à-dire si tu veux être sécuritaire, il faut que tu démontres une insécurité. Et j'ai l'impression que par exemple tous ces systèmes de caméras
qu'on va nous vendre en creux, ça parle d'insécurité tout le temps. C'est-à-dire, ça prouve qu'il y a de l'insécurité, puisqu'on peut surveiller des choses. Et d'ailleurs, c'est vrai, parce qu'il y a de l'insécurité, bon, je veux dire, au niveau de toutes les infractions au code de la route. Il y a plein de gens, ça fait partie de l'insécurité. Les voitures qui vont trop vite, nos enfants, blablabla, etc. Donc voilà, vous voyez bien, il y a de l'insécurité, et d'ailleurs, on surveille ça. Les cambriolages, les vols à l'arraché, etc. C'est pareil, et j'ai l'impression donc et ça peut aussi aller les casseurs et les voitures qui brûlent, mais qu'il y a comme ça une justification d'un sentiment d'insécurité, qu'il y a même un entretien de ce sentiment, et que c'est une gestion de la population par le sentiment d'insécurité. Ça fait partie de ce truc-là. Plus on voit de caméras, et plus on pense, évidemment, on pense que c'est utile. Puisque sinon, il n'y en aurait pas.
Ça me fait penser qu'il y avait une...
Et là, on a un truc qui vraiment tourne... Je veux dire, qui nous rend... qui entretient une population dans une parallèle.
Sur Forum Technopolis, une étude scientifique en Suisse, sur une ville qui avait un taux X d'incivilité divers et variés. Et en fait, et ils avaient fait une étude après X années de mise en place de la vidéosurveillance. Et en fait, ils avaient prouvé que pendant ces X années-là, le taux d'incivilité avait vraiment fait que chuter. Par contre, que le sentiment d'insécurité en parlant aux gens, aux habitants, avait augmenté parce que le fait qu'ils voient toutes ces caméras autour d'eux, ils avaient l'impression que c'est de pire en pire, alors qu'en réalité, c'était de mieux en mieux. Et en fait, quand on leur disait ça, ils étaient presque énervés, quoi. Enfin, c'est pas possible, quoi. Et c'est marrant parce que cette étude, elle disait exactement ce que tu dis. Et puis là,
bah, enfin, voilà. Dire, moi, je connais un village dans les Gorges du Verdon, au-dessus des Gorges du Verdon. C'est un village qui doit faire 400 habitants. C'est-à-dire que quand tu arrives dans le village, il y a la place du village et après tu es sorti du village, tu vois. Voilà, l'espace est très vite fait. Et ben la première chose que tu vois, c'est un énorme dôme qui est à côté de l'église. Voilà. Ok, c'est le Var. Ça n'a aucun sens, quoi.
Je pensais à Fort-Calquier, qui est une petite ville très sympa et très calme à côté de Marseille, où il y a un nouveau collectif qui est en train de se former pour s'opposer à un nouveau dispositif de vidéosurveillance de la ville. Ils nous ont appelés l'autre jour, je les avais au téléphone parce qu'ils veulent organiser un petit peu un questionnement de la population sur pourquoi ces caméras. Donc il faut voir que c'est la ville, l'ancienne ville de Castaner. Hein. Et bien c'est pas Castaner qui a mis les caméras, c'est son successeur. Comment justifier ces caméras-là? Est-ce qu'il y avait des incivilités? Donc j'étais en train de lui demander un petit peu, est-ce qu'il y a des SDF beaucoup? Est-ce qu'il y a beaucoup de migrants? Est-ce que c'est quoi qui... Comment ils justifient? Et il me dit mais non, il n'y a rien, il se passe rien à Fort-Calquier, tout est très calme, tout va très bien. On n'a pas besoin de fermer sa porte, forcément, quand on part de chez soi, etc. Et donc, vraiment, elle ne voyait vraiment pas quel était l'intérêt des caméras qu'ils mettaient. Et en fait, après, on a regardé ensemble le dispositif des caméras et ils avaient prévu des caméras mobiles. Les caméras mobiles, c'est ces caméras qui viennent sur roulettes dans des voitures qui peuvent être mises à des occasions. Et il y avait marqué... Ces caméras mobiles vont être mises dans ce périmètre-là. Donc, c'était le centre-ville. Hein. Il y a juste un centre-ville, c'est une petite ville. À toute occasion de rassemblement populaire, et il y avait marqué vide-grenier, concert, vente bric-à-broc, des choses comme ça, fête de la musique, manifestation, etc. Donc en fait, ils veulent juste surveiller la population quand elle se rassemble sur la place publique.
Où ils veulent
toutes sortes de manifestations. Où ils veulent montrer que tout est sous contrôle. Donc...
Tout,
on va continuer à parler de Marseille, puisque, bon, comme on le sait, aux dernières élections, il y a eu une liste associative, de partis, etc., qui est passée à gauche, hein, sur, entre autres, un projet de « on arrête les caméras ». Et puis, en fait, finalement, qu'est-ce qu'il en est ?
La municipalité a basculé, on va dire, à gauche, entre guillemets, avec le printemps marseillais aux dernières municipales, qui avait promis lors de sa campagne électorale un moratoire sur la vidéosurveillance. Ils avaient même proposé de signer notre lettre ouverte avant les municipales de la Technopolis, qui demandait l'arrêt, elle est visible sur le site, qui demandait l'arrêt immédiat de la vidéosurveillance. Donc ils avaient promis un moratoire, des assises citoyennes pour discuter de la sécurité avec les citoyens et que ce soit eux qui décident et qui participent à cette discussion et à ces décisions. Et qu'est-ce qu'on constate, en fait, près de 2 ans après leur élection ? Très vite, on a vu, en fait, que les marchés de maintenance des caméras en cours, ils ont été renouvelés. On les a vus, on a scruté les conseils municipaux. Ils ont été renouvelés. Au début, ils nous ont dit on ne peut pas annuler des marchés qui ont été signés avant nous. Or, ils ont renouvelé de la maintenance, donc c'est pas exactement la même chose.
Et seulement de la maintenance, mais aussi
de et voilà, et dans ce petit marché de renouvellement de la maintenance, il y a marqué dans un tout petit coin, ce marché prévoit par ailleurs l'installation, si besoin, de nouveaux points de captation, donc de caméras, selon les besoins de la ville. Donc c'est dans ce marché déjà. Donc déjà, c'était la première alerte sur le fait qu'on n'était pas en moratoire en vrai. Ensuite, très peu de temps après, on a le budget de la ville qui a été voté et qui a fait beaucoup de bruit à l'époque parce que, comme on le sait, à Marseille, il y a des écoles publiques dans un état délabré, le logement qui est un vrai problème. Ce budget donc était très attendu. Et qu'est-ce qu'on remarque dans ce budget ? Qu'on a 800 000 euros qui sont prévus pour l'extension de la vidéosurveillance. Et c'était exactement le même budget qui était alloué aux écoles publiques. Exactement 800 000, c'était très symbolique. Et à cette même occasion, on apprend lors de ce budget-là que le projet Observatoire Big Data de la tranquillité publique est maintenu. Et maintenant, il se renomme M-Pulse. Voilà, M, le Pulse de Marseille. Et on a le nouveau délégué à l'Open Data, à la transparence, qui nous assure que ce n'est pas aussi grave que ce qu'on croit. Ce n'est pas le projet fantasmé de vidéosurveillance, c'est juste une cartographie sociale de Marseille et de ses données, de cette data. Et voilà. Et donc du coup, il continue à dire qu'il y a moratoire malgré tout ça. Nous, on les dénonce régulièrement. On a écrit un article sur le site de la Quadrature et Technopolis qui s'appelle « Le printemps marseillais au fond à droite ». Et justement, on les interpelle sur ces mensonges éhontés. Et sur le fait qu'il continue cette politique tout en disant qu'on ne le continue pas. On a beaucoup de demandes CADA en cours à Marseille, de demandes d'accès aux documents administratifs qui sont sans réponse. On n'est pas le seul collectif à Marseille. La mairie, malgré le fait qu'elle ait un délégué à l'open data, à la transparence et à la démocratie participative, donc un adjoint et un délégué qui se nomme, donc l'adjoint se nomme Olivia Fortin, l'adjointe, le délégué se nomme Christophe Hugon, il vient du Parti Pirate et c'est un délégué à l'open data. Malgré tout ça, la ville ne répond pas aux demandes citoyennes d'accès aux documents administratifs, malgré des saisines CADA avec avis positif. Et donc le seul recours, c'est le tribunal administratif. Il y a déjà un collectif qui a porté 8 plaintes devant le tribunal administratif pour non-réponse et non-transparence aux demandes d'accès. On va essayer pour Technopolis aussi de le faire, on se mobilise pour ça, mais c'est vraiment assez choquant de voir toute cette communication d'un côté. Et on a vu, en fait, à l'occasion de la venue de Macron à Marseille pour le projet Marseille en grand, où il a offert 500 caméras à la ville.
Trop sympa.
Trop sympa. Et évidemment, la ville a dit qu'elle allait étudier cette question. Et dans une interview récente, l'adjoint à la sécurité a dit qu'on allait le faire, mais mieux que les précédents, qu'il ne le faisait pas de façon efficace, mais on allait mieux les déployer et les mettre là vraiment où il y en a besoin et où les Marseillais en ont besoin. Et évidemment, on ne sait pas
le projet
qui
de
le
Macron,
décide.
C'était un peu un chantage, quoi. On vous donne des thunes, mais en échange, il faut poser des caméras.
Ben oui, ça ne vient pas comme ça, l'argent. Il y a des contrepartie. Et aussi, un argument qu'on nous disait souvent à Marseille, c'est que, de toute façon, vous inquiétez pas, c'est pas l'argent de la mairie, c'est des fonds européens, déjà, le FEDER, et aussi, il y a le FIDH, le Fonds National. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas l'argent de Marseille. Or, si, c'est, nous, quand, nous sommes des contribuables qui contribuent de façon nationale, et c'est l'argent qui pourrait tout de même aller ailleurs, au niveau national, au niveau européen, peu importe. Mais,
c'est vrai que la question de l'argent, elle est quand même aussi importante dans cette histoire-là, au-delà de la question du contrôle des populations et tout. Parce qu'on voit bien aussi, même sur des petits villages, ils sont capables d'avoir plein de thunes pour mettre des caméras et qui sont incapables de proposer des activités culturelles, des hôpitaux,
ouais,
etc.,
des jardins écoles publics, en bon fonctionnement. Des écoles publiques dignes de ce nom, et évidemment. Et à Marseille, c'est encore plus criant, avec des logements insalubres, avec des écoles vraiment dans un état très délabré. Les écoles de la Belle de Mai, qui, encore il n'y a pas longtemps, et je crois qu'il y en a encore, c'était des préfabriqués, des écoles élémentaires, où c'est des préfabriqués, où il n'y a pas de fenêtres au mur qui sont réparées pendant l'hiver, même si c'est un pays du sud, il fait quand même froid l'hiver quand il y a du Mistral. Et vraiment, il y a le collectif des écoles de Marseille qui est très... très actif sur ces questions-là. Donc c'est lui qui a déposé 7 des 9 recours contre la ville de Marseille pour non-transparence. Eux, ils s'indignent vraiment de voir qu'il n'y a eu aucune nouvelle embauche publique au niveau des écoles élémentaires, de ATSEM, donc les employés aux écoles, et que le budget des écoles votées, donc de 800 000 euros, qui était le même que celui pour l'éducation, c'était exactement à un centime près le même... je crois qu'il avait diminué par rapport au budget de Gaudin. C'était un constat très triste de leur part, et c'est pareil pour le collectif du 5 novembre qui s'occupe du logement insalubre et collectif
Suite à l'effondrement
des immeubles de la rue Daubagne, avec des morts et avec, si vous vous baladez dans Marseille, encore un tas de bâtiments qui sont fermés, étayés et avec un périmètre de sécurité autour où les habitants étaient évacués, qui sont dans des hôtels où ils changent. Des fois, ils changent tous les mois d'hôtel et ils sont baladés de quartier en quartier. Les enfants sont scolarisés, mais on fait ce qu'on peut pour les... Ils peuvent être très loin de leur école. Et donc ça continue à Marseille. Il y a un besoin criant. C'est pour ça que notre maire a fait appel à Macron, qui est venu donc en grand sauveur proposer le plan du Grand Marseille, qui a été beaucoup décrié par les associations locales et les citoyens.
Nous terminons cette émission par une annonce d'un événement à venir et dont le sujet a parsemé cette émission, les Jeux Olympiques.
simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.